je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué, avant toute chose, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi, car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité, si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, et votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Pourquoi aussi bravons-nous le péril à toute heure? Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je meurs chaque jour. Si pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, et je vous le dis à votre honte.
Dans ce chapitre, un dernier sujet, le dernier sujet qu'il avait à cœur et qu'il était conduit à traiter vis-à-vis des Corinthiens. Et nous comprenons bien que s'il est réservé pour la fin, ce n'est pas que ce soit le sujet le plus mince, bien au contraire. C'est sans doute le sujet le plus important de l'Épître. Et si important que soient les enseignements que nous avons trouvés dans tout le reste de cette précieuse Épître et tout ce que, à propos de la conduite individuelle et comme assemblée, des Corinthiens, Dieu avait à nous faire connaître concernant la marche individuelle, mais concernant surtout la marche collective, la marche de l'Assemblée, considérée soit comme la maison de Dieu, où tout doit être en ordre, ou comme le corps de Christ, appelé sur cette terre, montrer cette opération de l'Esprit de Dieu faisant vivre ici-bas des membres de Christ. Mais il restait un point bien important. Et c'est celui que nous avons, un sujet réservé pour la fin, un sujet fondamental, engageant toute la doctrine du christianisme, car c'est un point de doctrine que nous avons ici, mais un point de doctrine, comme tout le christianisme, fondé sur des faits, sur un fait. Et l'apôtre traite ce point essentiel comme nous devons retenir l'attention des Corinthiens si véritablement ils n'avaient pas cru en vain. Et si cela était important pour cette époque et pour les Corinthiens, combien cela demeure essentiel et combien cela apparaît encore plus digne d'attention, imposant davantage encore notre attention. Non seulement parce que nous arrivons à la fin de la période chrétienne et dans les temps fâcheux de la fin, mais parce que nous sommes beaucoup plus inexcusables que les Corinthiens qui pouvaient arguer d'une certaine ignorance vis-à-vis de ces choses. Nous, nous les connaissons, les voici présentés dans toute leur clarté et toute leur autorité par l'apôtre inspiré. Et la façon dont il aborde la grande question qui est à exposé est remarquable. Il s'adresse aux Corinthiens en leur disant, eh bien, il faut que je vous rappelle de nouveau l'Évangile. Je vous fais savoir, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce qu'ils ne savaient pas l'Évangile que Paul avait annoncé? Il est obligé de le leur donner comme à nouveau, et dans ses traits essentiels, qui sont résumés dans le verset premier, d'une manière si remarquable. C'est comme s'il leur disait, il est nécessaire que je vous annonce comme à nouveau l'Évangile. Dans un sens, c'était humiliant pour eux, qui prétendaient connaître tant de choses, avec tous les dons que nous leur avons vus. Eh bien, ils leur rappellent l'Évangile dans toute sa simplicité. Et, mieux que cela, il va insister, développer, après avoir résumé son Évangile, il va insister sur le point particulier de la résurrection de Christ, en disant, eh bien, les Écritures avaient annoncé cela, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, selon les Écritures, et puis Dieu a donné un grand nombre de témoins irréfutables de cette résurrection. Voilà la nécessité de recevoir cela avec certitude. Alors les Corinthiens pouvaient dire, bien oui, mais nous l'avons reçu cela, nous connaissons cela. Comme dans la chrétienté aujourd'hui, on dira facilement, mais nous connaissons l'Évangile. Mais c'est bien simple, mais cela a été présenté tant et tant de fois. Bien, mais qu'en faites-vous? Mais comment agissez-vous vis-à-vis de cet Évangile et vis-à-vis de ce qui a été présenté? Mais nous le respectons, mais nous le reconnaissons vraiment. Mais alors, et c'est ce qui est abordé à partir du verset 12, car la question n'a pas été posée encore jusqu'à ce verset 12, comment se fait-il alors qu'il y en ait parmi vous qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous dites que vous êtes tous d'accord à Corinthe sur cet évangile, mais comment se fait-il que l'on puisse soutenir, en prétendant avoir des connaissances particulières, à n'en pas douter, qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et c'est ainsi que l'apôtre engage cette grande question. Les Corinthiens pouvaient répondre, sans doute étaient-ils prêts, les sages d'entre eux, à répondre, mais nous n'avons pas du tout la pensée de pervertir ou de trahir l'Évangile en disant qu'il n'y a pas de résurrection de mort. Oh, ce n'est pas notre intention, nous ne devons pas compromettre l'Évangile et nous ne devons pas compromettre la vérité de la résurrection de Christ. Seulement, il faut comprendre ces choses, il faut tout de même distinguer. Et voilà l'esprit de l'homme, voilà les raisonnements de l'homme, et voilà tout ce qui, dès Corinthe, et à travers toute l'histoire du christianisme, et à notre époque encore bien davantage, vient en réalité renverser les fondements du christianisme, de la doctrine chrétienne, au nom d'une fausse connaissance. On prétend partir de l'évangile et développer l'évangile au lieu de, c'est un mot qui revient à deux reprises dans ce que nous avons lu, de recevoir simplement ce qui est dit et recevoir le témoignage que Dieu donne. Ils ne voyaient pas ces Corinthiens si sages à leurs yeux, et qu'en niant la résurrection des morts, il renversait en réalité l'évangile. Et l'apôtre part de là, alors, à partir du verset 12, pour montrant combien il est destructif du christianisme en doctrine et en pratique de nier la résurrection des morts. L'apôtre va développer, en des raisonnements qui sont, eux, des raisonnements inspirés de l'Esprit de Dieu, les raisonnements fondés sur les déclarations divines et sur la parole, il va montrer ce grand fait, ce fait capital de la résurrection des morts, vérité générale, qui ne peut se séparer de la résurrection de Christ. Cette liaison de la résurrection des morts, entendons, de la résurrection des corps, il n'y a pas d'autre résurrection que la résurrection des corps. Et c'est d'une importance sur laquelle je pense que nous aurons à revenir, mais bien grande, que d'insister là-dessus. Eh bien, on ne peut pas. La grande chose de tout ce chapitre, c'est cette liaison entre la résurrection des morts et la résurrection de Christ. Il y a là un point fondamental de l'Évangile. Cela nous amène à voir avec attention, selon les enseignements que nous avons ici, ce que représente donc cette résurrection de Christ, de celui qui est mort, qui a été enseveli et qui a été ressuscité. C'est de toute importance. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'a pas été ressuscité. Et s'il n'a pas été ressuscité, il n'y a pas de salut pour nous. Ainsi, dans les 11 premiers versets de ce chapitre, l'apôtre établit la place de la résurrection dans ce qu'il avait annoncé, la résurrection de Christ, dans l'évangile qui avait été annoncé. Et il y a là un ensemble sur lequel il est bon que nous arrêtions un peu. Il qui vous a été annoncé en quatre parties, ou du moins il a quatre caractères. Je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu, c'est l'évangile dans lequel vous êtes, et c'est l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Et c'est toujours le même évangile, la prédication n'a pas changé. Est-ce que vous, vous avez changé? Voilà la question. Il s'agit donc de tenir ferme la parole que je vous ai annoncée.
Seigneur, conduit toutes choses et au-dessus de tout. Nous ne jetterons pas la pierre aux Corinthiens pour la rapidité avec laquelle ils avaient oublié ce qui leur avait été dit. Nous pouvons nous demander nous-mêmes quelle puissance exerce sur chacun de nous cette vérité que nous connaissons aussi. Une vérité qui n'exerce pas d'effet n'a pas été reçue. Elle peut être faire partie d'un bagage intellectuel, mais la vérité de Dieu n'est pas reçue tant qu'elle en reste là. Et à l'égard des Corinthiens, il y a quelque chose dans leur état défectueux qui est encourageant pour nous, c'est que cela a donné au Seigneur l'occasion de compléter les Écritures. Et compléter ce qui touche à l'œuvre de Christ. Et de développer ainsi ce sujet de la résurrection que nous avons entièrement entre les mains. Une fois de plus, le Seigneur sait se servir des défaillances même des siens pour apporter un enrichissement des révélations dans la vérité. C'est vrai dans toute cette épître d'ailleurs. Nous avons donc ce sujet de la résurrection. Eh bien, quelle place tient-il dans nos assemblées respectives? Quelle place tient-il dans nos méditations individuelles? Il faut bien croire qu'il doit avoir une grande utilité pour qu'il ait été donné. Le Seigneur n'a pas gardé le silence sur ce sujet-là. Donc il était nécessaire que les siens le connussent. Il est nécessaire que nous le connaissions. Et nous avons au-dessus de ces témoins qui sont donnés, nous en avons un autre qui depuis 20 siècles rend ce témoignage. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé après la résurrection et la glorification du Seigneur. Et le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre depuis ce temps-là. C'est lui qui peut ouvrir nos yeux, toucher nos cœurs, toucher nos consciences quant aux instructions qui se lient à ce qui est aussi un fait d'une importance majeure, celui de la résurrection de Christ. Cette déclaration affirme que ce n'est pas la mort qui a eu le dernier mot. Pas du tout. C'est Dieu qui a eu le dernier mot. C'est le Seigneur qui a eu le dernier mot. La mort ne l'a pas retenu. Elle ne pouvait pas le retenir. Et il y va donc de la gloire de Christ. Et l'Église aurait dû, pendant 20 siècles, proclamer par son comportement que Christ était ressuscité, sans que le monde l'ait vu. Et puisse le voir. Dans ce sens-là, il y a pour nous une grande instruction. Si nous aimons le Seigneur, nous devons rechercher ce qui est à sa gloire et alors proclamer dans ce monde que la mort est vaincue, que le Seigneur est ressuscité, qu'il est dans le ciel. Ce n'est pas une des moindres parties du témoignage que nous avons à rendre. Pas seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Le monde pense ce qu'il veut. Il croit que Jésus, qu'il s'est débarrassé de Jésus, mais l'Église doit rappeler que Jésus est ressuscité, et rappelons en passant que cette résurrection est attribuée aux trois personnes de la Trinité. Il s'est ressuscité lui-même, il était ressuscité par l'Esprit, puis par la gloire du Père, nous connaissons les passages, là, toute la gloire, la déité a été engagée dans cette œuvre de la résurrection, dans cette merveille de la résurrection de Christ. C'est un fait, eh bien, le Seigneur veuille qu'il tienne d'une place. dans les enseignements qui sont donnés dans les Évangiles.
Qu'il se soit ressuscité lui-même découle de son affirmation lorsqu'il dit aux Juifs: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et l'Évangile ajoute: il parlait du temple de son corps. Que l'Esprit de Dieu soit intervenu, c'est ce que nous avons au commencement en particulier de l'Épître aux Romains. Déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, la sienne et celle de tous ceux qui lui sont liés par la foi. Et ressuscité par la gloire du Père, c'est ce que nous avons en Romains 6, mais les passages abondent qui nous affirment que Dieu l'a ressuscité et lui a donné la gloire, afin que notre foi et notre espérance fussent en Dieu. Peut-être avons-nous aussi à considérer ce fait que la rédemption en puissance, découlant de l'œuvre du Seigneur, ne peut que s'appliquer à l'être tout entier, car tout être humain a un corps, une âme, un esprit. Volontiers, nous nous arrêterions à cette pensée, bien, l'âme est sauvée, l'esprit s'en retourne à celui qui l'a donné. Oui, mais quand l'apôtre, quelques chapitres précédents, a dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit », insistant sur cette considération sainte que nous devons apporter à ce qui est le domicile de l'âme et de l'esprit, domicile actuel. Or, s'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, comme nous le savons, il les a laissés dans la mort, la tombe du Christ est le lieu où nos péchés ont été ensevelis avec lui, mais il en est sorti triomphant. Dieu a délié pour lui les liens de la mort. Et comme nous le chantons quelquefois, Jésus ressuscité dans le ciel est monté, les siens l'ont vu. Quelle pensée glorieuse, précieuse, mystérieuse, nous liant à celui qui est là-haut, l'homme Christ Jésus, ressuscité et glorifié. Cette humanité qu'il avait revêtue en grâce parfaite, lorsque de Dieu il s'est anéanti et a été trouvé en ici-bas comme un homme, cette humanité en laquelle il a été, il a participé au sang et à la chair, c'est l'expression d'Hébreu 2. C'est la même humanité, c'est le même corps de notre Seigneur, qu'on a vu gisant dans le lieu de la mort. Mais que tant de témoins sont là, des témoignages accumulés, pour attester qu'il n'est pas resté dans la mort. C'est celui qui aussi, au matin de sa résurrection, est apparu à Marie, comme il est apparu à Pierre et aux autres disciples. Il avait alors un corps en résurrection, non pas encore un corps glorifié, mais un corps qui pouvait s'assujettir la matière et en laquelle il a donné, et en lequel il a donné pendant 40 jours les preuves assurées de sa résurrection. Ce corps, aux yeux des disciples, leur a été ravi dans le moment de son ascension, mais c'est dans cette humanité pure et sainte qu'il est rentré en gloire et glorifié de la gloire qu'il avait auprès de Dieu, auprès du Père, avant que le monde fût. Combien il est important pour nous de saisir, autant que la foi nous le permet, la plénitude de ce sujet qu'il concerne. Car, on l'a dit, et nous allons en retrouver toutes les étapes, toutes les fois qu'il s'agira d'affirmer devant nous la réalité de la résurrection des corps, le Seigneur lui-même nous sera présenté. Et quelle faveur pour nous, chers amis chrétiens, d'entrer par la foi dans ce domaine qui est le domaine divin, de penser à celui dont on vit sur la croix le corps inanimé, mais qui maintenant est pour nous comme chef d'une nouvelle race, ceux qui lui sont unis par la foi, selon la puissance de sa propre résurrection, il est maintenant là-haut pour nous, comme ce domicile qui est du ciel. Comme nous le chantons dans notre corps. Tente, fragile, chargé, souffrant, nous gémissons après l'éternel domicile qu'en gloire nous revêtirons. Et ainsi, la rédemption sera complète. Nous aurons reçu l'adoption, la délivrance de notre corps, et nous le verrons dans tous les éclats de sa gloire, celui qui a été ici-bas, l'homme de douleur, mais qui est là-haut, l'homme glorifié, l'homme Christ Jésus.
On peut ajouter une citation sur le fait que le Saint-Esprit a ressuscité Christ dans 1 Pierre, simplement je la signale, 1 Pierre 3, verset 18. Dieu avait créé l'homme, âme et corps. L'homme s'est conduit, comme nous le savons tous, et son âme et son corps ont été engagés dans cette chute, dans toute cette misère. Le Seigneur est venu glorifier Dieu là où nous l'avions déshonoré. Il a eu part au sang et à la chair. Il l'a glorifié par son sacrifice, mais il l'a aussi glorifié par le fait qu'il a visité la mort, qui était la juste condamnation de Dieu contre l'homme. Le corps est loin d'être une chose négligeable. Dans ce que Dieu a fait, il n'y a rien de négligeable. Nos corps ne sont pas ce qu'était celui d'Adam à sa création. Mais, toutefois, là où nous avons déshonoré Dieu dans nos corps, le Seigneur l'a honoré, et la sanction de la mort, le Seigneur l'a annulée par son sacrifice. Mais tout ce qu'était l'homme sorti des mains de Dieu a dû être considéré par Christ dans son œuvre. Dieu n'a rien négligé, il n'avait pas à... Jamais nous ne pouvons avoir une pensée telle que si que Dieu a pensé, a enfin vu qu'il s'était trompé. Il ne s'est jamais trompé. Le Seigneur est venu pour montrer que Dieu ne s'était pas trompé. Et pour revendiquer la gloire de Dieu de toute manière, dans toutes les conséquences de la conduite de l'homme, soit quant à son âme, son esprit, soit quant à son corps. De sorte que la question du corps, du sort du corps, est une question d'une très importante pour la gloire de Dieu. Et c'est d'abord de Dieu qu'il s'agit. Notre bénédiction est aussi liée à cela. Satan sait bien ce qu'il fait quand il s'attaque aux points fondamentaux.
Ceci est extrêmement important. On y a insisté à plusieurs reprises. Le début de cet entretien, mais la place du corps, combien on y prête peu d'attention. Il semble que le corps soit une partie négligeable, que ce soit un accessoire, et que ce soit quelque chose dont nous avons besoin d'être débarrassés, mais pas du tout. Le corps a été créé par Dieu à la gloire de Dieu. Le chrétien a glorifié Dieu dans son corps. Chapitre 6 est des Corinthiens. Nous avons à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Chapitre 12 des Romains. Et ainsi continuellement dans l'Écriture. Christ est venu en ayant part, cela a été rappelé aussi, au sang et à la chair. Il a pu dire, tu m'as formé un corps. Il est bon d'y insister parce que, sans que nous en ayons conscience, il y a là un des produits ou des résidus, comme on voudra, des spéculations humaines et des philosophies humaines de tous les temps. La plupart des philosophies d'autrefois, des philosophies orientales en particulier, méprisent la matière, considèrent la matière comme impure, mais pas du tout, elle ne l'est pas en elle-même, et le corps ne l'est pas en lui-même, et celui d'Adam, comme cela a été rappelé, faisait partie d'une création où Dieu trouvait que tout était très bon. Ne l'oublions pas. L'apôtre signale dans les Colossiens comme quelque chose de réprouvable au dernier point de ne pas accorder d'attention au corps. Seulement le péché qui, dont le principe est éminemment spirituel, a corrompu toute chose, a entraîné la corruption du corps, de la chair, c'est l'être tout entier qui s'est trouvé engagé par Satan dans ce chemin de désobéissance, de rébellion et d'inimitié contre Dieu. De là, la nécessité de la rédemption, non seulement de l'âme et du corps, mais en réalité, cela ne fait qu'un. L'être humain est formé de ces choses inséparables. Et s'il y a actuellement, pour ceux qui sont endormis, pour les morts, d'une manière générale, séparation entre l'esprit et le corps, mais c'est une chose transitoire. C'est une chose anormale, en ce sens que il y a absence d'une partie essentielle de l'être. Absent du corps, présent avec le Seigneur, C'est ce que nous trouvons dans chapitre 2, 5, 6, 5 des Corinthiens. Et cela est important. Et quand nous serons semblables à Christ, nous serons semblables à un homme dont le corps a été ressuscité et glorifié. Et nous serons dans des corps semblables aux siens, ressuscités, glorifiés ou transmués et glorifiés. Ne perdons pas de vue cela. Et alors, on comprend l'importance capitale de la résurrection des corps. Non pas seulement la résurrection de Christ d'une manière générale. L'apôtre part de cela, de la résurrection de Christ, comme une vérité qui est reçue, mais il interdit, pour ainsi dire, que l'on fasse des spéculations, des raisonnements sur cette résurrection, et qu'on ne l'accepte pas simplement comme le fait qu'un corps qui a connu la mort est sorti victorieux de la mort. Qu'un homme est mort et a été ressuscité. Voilà le fait fondamental du christianisme. Ou on ne se dit pas chrétien, ou on se dit chrétien à tort, ou on accepte cela. Mais, tout en se prétendant chrétien, on a bien des façons de parler de la résurrection. Et si on lit... Je ne le recommande pas. Mais quelque peu la littérature chrétienne ou dite chrétienne dans les environs de la fête de Pâques, on a des sursauts en voyant de quelle manière on s'écarte de ce que la parole de Dieu présente en toute simplicité, un corps ressuscité. Et on spiritualise la chose. Et on en fait un objet de spéculation très haute, sans doute, mais en oubliant ceci, qu'un homme a été ressuscité. C'était le Fils de Dieu, mais c'était un homme. Il y a donc une résurrection des corps. Mais l'apôtre, alors, va dire... Vous niez qu'il y ait une résurrection des corps, donc Christ n'est pas ressuscité. Vous voyez la force cette affirmation, de ce raisonnement, si l'on veut, n'est-ce pas? La mort vaincue, c'est donc que tous les morts doivent ressusciter. Tous. Parce que la résurrection de Christ n'implique pas seulement la résurrection de ceux qui lui appartiennent, mais la résurrection de tous les morts. Il n'en est guère parlé ici, soit par une allusion lointaine, mais il est de toute importance aussi de retenir qu'il y a une résurrection tant des justes que des injustes. Deux formes, deux époques, deux actes, même plusieurs, cela est clair d'après la parole, mais c'est toujours la résurrection des morts. Liée à la victoire de Christ sur la mort. La mort est par un homme, c'est par un homme que la résurrection des morts, c'est ce que nous trouverons dans la deuxième partie du chapitre. Mais pour commencer, et comme il est bon, je crois, de nous y arrêter tant soit peu, c'est cette certitude du fait de la résurrection effective, matérielle, corporelle de Christ qui est là, placée devant nous, dans les 11 premiers versets de ce chapitre. Un témoignage a été rendu à cela avant qu'il ne se produise, et ce sont les Écritures. C'est le témoignage des Écritures, de même qu'elles avaient annoncé que Christ devait mourir, que le Messie d'Israël devait mourir, que l'homme, selon le cœur de Dieu, devait mourir, elles annonçaient qu'il devait ressusciter par des figures comme celle du sacrifice d'Isaac et du recouvrement d'Isaac par son père d'une manière si miraculeuse, figure de la résurrection, d'autres encore, des expressions des psaumes, comme le psaume 16, qui m'a fait connaître le chemin de la vie, d'autres encore. L'Ancien Testament, à bien des reprises, nous parle ainsi de la résurrection et de la résurrection de Christ. De sorte que, le moment venu, les Écritures ont été accomplies, il est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Il a été enseveli, il y a eu des témoins de sa mort, et cela est irrécusable, il est bien mort. Il y en a qui l'ont enseveli, il n'est pas parlé des Écritures à propos de l'ensevelissement, mais elles reparaissent au contraire avec la résurrection. La résurrection, il a été ressuscité selon les Écritures, et non seulement ressuscité, mais ressuscité le troisième jour. Troisième jour, dont il est question tant de fois dans l'Ancien Testament, le troisième jour, il nous mettra debout, et dit par rapport à Israël, un temps suffisant pour que, si la mort n'avait pas été vaincue, la corruption ait fait son œuvre dans le corps placé dans le sépulcre. Mais un temps, on peut dire aussi court que possible, parce que il y avait nécessité que bientôt, aussitôt que possible, dès le troisième jour, fut manifesté que la victoire était remportée, que le sépulcre avait été vidé de son précieux contenu. Combien tout cela est important. Et alors, on comprend aussi que l'Esprit Saint accumule l'épreuve. Les femmes ne sont pas mentionnées, sont pourtant les premières qui ont eu le témoignage de la résurrection. Mais il était réservé à ceux qui avaient vu le Seigneur, avaient marché avec lui, avaient été témoins de sa mort, de rendre témoignage de sa résurrection. Pierre le premier, et puis les douze, allusion à la rencontre du Seigneur avec Pierre, ou dont il est fait mention, mais seulement mention, dans les Écritures, dans l'Évangile. Il y a eu un entretien particulier avec Pierre, dont il nous est rien dit, mais on comprend son importance, étant donné que Pierre se trouvait dans les conditions morales que nous savons, lui qui avait trahi son, renié son maître. Et puis, les douze, allusion, évidemment, au soir de la résurrection. L'ensemble des apôtres est vu au complet, bien que Thomas, ni Judas, bien entendu, ne fussent là. Mais ce sont les douze, ceux qui avaient été les compagnons, les disciples immédiats de Christ, qui sont là. Mais ensuite, alors, après avoir eu la qualité, on peut dire, des témoins, un Pierre et les douze apôtres, on a le nombre, 500 frères à la fois. Il a été vu, 500 frères à la fois, il a été vu vivant, avec des preuves assurées, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure, comme on le trouve au début des Actes. 500 frères, 500 témoins, il y en a qui sont morts, mais à l'époque où l'apôtre écrivait aux Corinthiens, il y en avait encore, et ils étaient là pour la plupart encore vivants. Autrement dit, vous pouvez les interroger. On peut s'adresser à eux. Ils peuvent encore dire. S'il y avait un fait dans l'histoire ancienne qui fut attesté de telle manière par des textes, par d'autres textes, on s'extasierait que 500 témoins aient pu être invoqués n'est-ce pas, en faveur d'un fait. Eh bien, voilà ce que nous donnent les évangiles. Voilà ce que nous affirme ici l'apôtre. Les Corinthiens pouvaient s'adresser à un grand nombre de ceux qui avaient vu le Seigneur. C'était encore de leur temps, c'était à leur portée, ils pouvaient se renseigner. Quelle preuve effective, on ne peut pas nier que l'on ait manqué de témoins oculaires. Et puis, l'apôtre continuera en parlant de Jacques, qui avait dans l'assemblée de Jérusalem une place particulière, puis de tous les apôtres, allusion certainement à ces entretiens que le Seigneur a eus avec eux pendant les 40 jours jusqu'à son ascension, ce qui nous est rapporté au début des Actes. Et puis voici enfin un dernier témoin, et non le moindre, bien qu'il fût humainement le moindre, bien qu'il se présenta comme quelqu'un qui n'était pas digne de vivre, qui n'avait pas aucune des qualités propres à avoir la vie, et comme nous l'avortons, se plaçant bien au-dessous, bien en arrière des apôtres dont il venait de parler. Et pourtant, il était un apôtre. La grâce de Dieu avait éclaté envers lui qui, pauvre chétif, misérable, comme sans vie, n'est-ce pas, peut maintenant être le plus grand héros de la grâce de Dieu et avoir travaillé plus que tous les autres apôtres. Quelle accumulation de témoignages. Lui, l'apôtre Paul, parlait comme ayant vu Christ non seulement ressuscité, mais glorifié. Il avait été appelé, saisi par Christ, le chemin de Damas, nous n'avons pas rappelé la scène, mais quel témoignage que celui qu'il peut rendre. Il n'y a peut-être pas de renversement plus grand dans la vie d'un homme de tous les temps. Celui qui allait comme le plus grand ennemi de Jésus et qui, saisi par lui, renversé par lui, apostrophé par lui, le reconnaît comme Seigneur et désormais toute sa vie est changée et il va proclamer l'œuvre et la gloire de Christ et tout cet évangile que les Corinthiens avaient reçu. Quelle certitude par conséquent dans ce fait que Jésus est bien ressuscité et que cette résurrection, c'est bien une résurrection matérielle. Matérielle. Je le répète, combien de gens dans la chrétienté actuelle, même en affirmant croire en la résurrection de Jésus-Christ, interprètent cette résurrection de manière à éluder, à laisser de côté ce fait matériel est qu'un corps mort a été mis dans la terre et qu'il est sorti ressuscité. Non plus exactement le même, loin de là, mais c'est le même corps. Nous trouverons dans la deuxième partie du chapitre que on met un grain dans la terre et quand la plante ensuite sort, c'est le même être et pourtant le grain ne ressemble pas à la plante. Mais c'est le même être, c'est le même corps qui a été ressuscité. Et si nous ne croyons pas cela, en réalité, nous n'avons pas persévéré dans la parole. Nous n'avons pas, comme l'apôtre le demandait aux Corinthiens, tenu ferme dans la parole. Vous êtes sauvés si du moins vous tenez ferme. Si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée. Voici la parole que je vous ai annoncée. Alors maintenant, qu'en faites-vous? Eh bien, vous la détournez dès que vous dites, il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il a été un mort. Parce qu'il a été un mort. Il a pris sa place et comme un homme mort, mort pour nos péchés, mort pour nous sauver. Cet homme était le Fils de Dieu. Tout cela est vrai, mais la réalité fondamentale, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Et puis, il a été ressuscité. Voilà le point de départ de l'apôtre.
Sans allonger, convient-il que nous nous souvenions de ce que l'Esprit, de ce qu'il disait par l'Esprit prophétique, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » S'il y a une preuve, ajoutée à d'autres, mais déterminante pour nous du fait que Christ, en mourant, est entré vainqueur dans la mort, c'est bien ceci, c'est que pendant qu'il a été là, gisant, placé dans le lieu de la mort ne pouvait avoir sur lui aucune emprise. Et nous avons à considérer ceci avec une sainte révérence, mais avec une foi entière. Pour nous, quand l'âme quitte le corps, aussitôt, les germes d'une corruption qui découle de la mort du corps sont visibles. Pour lui, c'est le même Seigneur, entrant victorieux dans la mort, triomphant de la mort dans la mort. Par sa propre mort, il a été là, marqué de ce qui a été son privilège. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie et des plaisirs à ta droite pour toujours. Et ainsi, nous voici ramenés dans la méditation d'un sujet aussi élevé, aussi glorieux, nous voici ramenés à ce qui le concerne lui, et là est pour nous la source d'une réelle bénédiction.
Évidemment inépuisable, qui nous fait remonter à l'histoire de l'homme, à sa chute, et au fait que cette chute a entraîné la mort. Dieu ne pouvait pas retirer sa parole comme il n'en a jamais retiré une. La mort a régné. Tous les hommes l'ont subi. L'âme n'est pas touchée par elle. C'est le corps, bien entendu. Le Seigneur est venu pour s'occuper de l'homme dans cette condition-là. Il a eu part au sang et à la chair, mais il a été parfait dans sa vie, de sorte que Satan, qui a un droit sur la descendance d'Adam, Satan a un droit que Dieu lui-même ne peut pas lui contester. Ce sont des faits étranges, mais c'est ainsi. Il a un droit sur Adam et toute sa descendance. Descendance de pécheurs. Et Dieu a donné un pouvoir à Satan, même à l'égard de l'effroi que la mort cause, et Satan s'en sert. Donc, mais passons. Le Seigneur est venu. Et Satan a pensé qu'il pourrait faire avec Christ ce qu'il avait fait avec Adam. Car il y a une chose que Satan ignore entièrement, c'est la puissance de l'amour. Là, il est méchant et seulement cela. Et le Seigneur s'est soumis, s'est présenté devant la mort, seulement là. Dieu n'a pas, comme pour tous les autres hommes, n'a pas pu prêter d'attention aux accusations de Satan, car Christ était parfait. Tandis quand Satan accuse un homme, un pécheur, Dieu ne peut pas dire « Satan a tort, il a raison ». Tandis que voilà un homme contre lequel Satan n'a pu, à l'égard duquel n'a pu que dénoncer des choses fausses. Et c'est ce qui fait que Dieu a glorifié son Fils, n'est-ce pas, qui est entré dans la mort, parfait, sans que Satan puisse rien à son égard. Il ne pouvait pas toucher Christ. Il n'y avait rien en lui, il n'avait rien en lui, rien en Christ. Ce sont des points, des vérités très hautes, très solennelles, très profondes. Cela se passe entre la déité et Satan, essentiellement. Et Christ est venu pour cela. Et il est venu pour cela pour l'homme. Et Christ, donc, a été ressuscité par la gloire du Père. Il est mort comme quelqu'un qui mourait volontairement. Il a offert sa vie. On ne la lui a pas prise. Tandis qu'il n'y a pas un homme qui ait le droit d'offrir sa vie. Non, quand il meurt parce qu'il est condamné à mort. Ce qui n'était pas le cas de Christ. Un homme parfait. C'est ce qui souligne en même temps la réalité de son humanité, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas sonder ce mystère de la déité de l'humanité, mais c'est comme homme qu'il a fait cela. Comme homme, en tant qu'homme. Bien que l'expiation, il l'a subie sans doute en tant qu'homme, mais pour la supporter, sa puissance divine a été là, heureusement. Personne, aucun homme n'aurait pu supporter, car qui représentait les souffrances de l'expiation. Revenons à notre sujet. Le Seigneur s'est présenté devant la mort. Satan a fait tout ce qu'il a pu pour obtenir à son égard ce qu'il obtenait à l'égard de tous les hommes. Il a eu Dieu contre lui en cela, Satan. Et Christ a eu Dieu pour lui en cela. Et le Dieu qu'il a frappé pendant les 3 heures, c'est le même Dieu qu'il a ressuscité dans ce monde. Il a ouvert la voie de la bénédiction en passant dans ce monde de misère et de mort. Et le fait qu'il ait ressuscité, évidemment, est d'une importance que personne ne peut exprimer. Satan a été vaincu. Il n'a rien pu contre. C'est pourquoi ils avaient cherché à le détourner de l'œuvre de l'expiation. Mais l'œuvre de l'expiation étant à la base de tout, absolument, Christ ayant été parfait, entre dans la mort, offre sa vie dans la mort sans que personne ne lui prenne. Il sort de la mort parce que personne ne pouvait le retenir, personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Dieu le relève entre les morts. La donne à sa résurrection une portée que nous n'apprécierons que dans la gloire. En même temps, nous pourrons aussi rappeler que il est dit que nous sommes ressuscités en lui déjà. Par exemple, et ainsi dans les lieux célestes. C'est vrai, mais pas nos corps. C'est, comme on l'a dit, une résurrection spirituelle. Par l'Esprit Saint, nous sommes avec le Seigneur dans le ciel. Quand il viendra, aujourd'hui peut-être, nous le désirons, eh bien nous aurons des corps semblables aux siens. Nos corps mortels auront fait leur temps
Et il est aussi à noter que tous ceux qui seront sur la terre, des chrétiens, quand le Seigneur viendra, ne passeront pas par la mort. Dans la transmutation, n'est-ce pas ? Équivalent de la résurrection, d'ailleurs. Tout à fait. Le Seigneur s'est acquis tous les droits sur ceux qui croient en lui. La résurrection, on pourrait dire en un sens qu'elle est le sceau de toute sens. Et il manque toujours quelque chose à l'intelligence des saints quant à Christ, sa personne et son œuvre, s'il n'y a pas, dans ce qu'ils ont à retenir dans le cœur, par le cœur et la conscience, la résurrection. Et cela touche à tous les sujets que traite ce chapitre 15 et à l'avenir du monde, n'est-ce pas ? Très pratique pour chacun. Ça ne touche pas au vieil homme et au nouvel homme. Le vieil homme et le nouvel homme, ce n'est pas le corps. C'est l'homme pécheur qui est là avec une volonté. Ce vieil homme, pour le chrétien, a été crucifié à la croix, ce n'est pas le corps. Et nous avons à tenir le vieil homme pour mort et à laisser vivre le nouvel homme. Le nouvel homme peut employer le corps que nous avons à la gloire de Dieu. Et si c'est le vieil homme qui emploie le corps que nous avons, c'est un déshonneur pour Dieu et pour Christ. C'est là le péché. Le péché à l'aide du corps. Mais nos corps ont un rôle à jouer actuellement dans notre vie chrétienne. Et nous pouvons jouer un rôle, nous pouvons jouer un rôle à la gloire de Dieu, à la gloire de celui qui est le vainqueur de la mort, qui est ressuscité. N'est-ce pas que nous avons une tendance à réduire à presque rien les vérités du christianisme ? Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Mais l'évangile, évidemment, c'est la partie fondamentale. Mais les pages du Nouveau Testament sont pleines de tant d'autres vérités. Que le Seigneur veuille que dans toutes les assemblées, on y pense. Nous ne serons pas réunis encore une fois pour rien, alors.
Corps que nous pouvons exprimer et que et nous avons la vie nouvelle. La vie chrétienne, c'est la vie nouvelle, la vie de Christ dans des corps et qui appartiennent encore à l'ancienne création, mais que le chrétien a le privilège de livrer à Dieu. Livrez donc vos membres, n'est-ce pas, à la justice. Combien tout cela est important, et nous le sentons. Et alors, dès que l'on s'écarte de la vérité simple, telle qu'elle est formulée dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans les épîtres, dès que les pensées de l'homme s'y mêlent, alors tout est trouble, tout est confusion, le salut n'est pas connu, mais pour le croyant, quelle perte lorsque il se trouve entraîné ainsi loin de Christ, abandonné une des vérités, particulièrement cette vérité capitale de la résurrection des corps, dont la résurrection de Christ représente le fait initial et fondamental, c'est abandonner Christ lui-même. Et c'est là-dessus que l'apôtre attire l'attention des Corinthiens, attire notre attention. Voilà ce qui vous a été annoncé. Verset 11. Soit donc moi, soit donc eux, c'est-à-dire les autres apôtres, nous prêchons ainsi. Qu'est-ce que nous prêchons ? Que Christ a été est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Et alors, nous prêchons ainsi et vous avez cru ainsi. Alors, voulez-vous croire d'une autre manière maintenant ? Y a-t-il plusieurs espèces de foi ? Hélas, oui, il y a plusieurs espèces de foi. La foi peut être vaine, comme nous l'avons ici. L'apôtre exhorte les Corinthiens à tenir ferme la parole, à moins, dit-il, que vous n'ayez cru en vain. Le terme qui est traduit ici par en vain signifie de façon légère, sans que l'on ait prêté attention à ce que l'on déclarait croire. Vous avez, pour ainsi dire, cru, vous auriez cru étourdiment comme cela parce qu'il y avait une nouveauté qui vous saisissait. C'est dans la parabole du semeur, les grains tombés sur le roc. Il n'y a pas de racine. Il croit pour un temps. Que notre foi ne soit pas vaine de la sorte. Plus loin, l'apôtre peut parler aux Corinthiens en leur disant que si véritablement Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication est vaine. Et aussi, votre foi aussi est vaine. Si véritablement ce que nous avons dit n'est pas la vérité, si Christ n'est pas ressuscité, et il ne l'est pas si les morts ne ressuscitent pas, alors votre foi est sans valeur. Ah, votre foi n'est pas de bonne qualité. C'est un autre terme. N'est pas de bonne qualité, c'est une foi sans valeur. Et puis, encore une fois, il dira au verset 17, « Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. » Même expression, ça nous frappe, n'est-ce pas, cette répétition du terme vaine. C'est une vanité, c'est une chose qui n'a pas de consistance. Et là, le terme qui est employé, qui est encore un troisième terme, signifie plutôt qu'il n'a pas de résultat. Votre foi est sans fruit. Comment donc la foi peut-elle être à la fois assurée, fondée en certitude, de qualité telle qu'elle nous assure la faveur de Dieu, d'être justifié par la foi, sur le principe de la foi, et qu'ensuite elle ait des fruits, elle ait des résultats, en nous en tenant à ce que Dieu a dit, à ce que la parole a dit, et en nous attachant à celui qu'elle nous présente comme objet de foi. Christ, toujours Christ. Christ dans sa vie ici-bas, la parole manifestée en chair, devenue chair. Christ dans sa mort, il est mort pour nos péchés, la mort a été vaincue avant qu'il soit enseveli et placé dans le sépulcre, comme nous le comprenons bien. De là, le fait qu'il n'a pas connu la corruption, et puis il a été ressuscité. Combien c'est simple, et en même temps, combien cela est grand, combien nous comprenons que cela est fondamental, vital. Nous avons besoin de revenir à cette simplicité quant au Christ. Ici, ces sages de Corinthe raisonnaient à la manière humaine sur la résurrection. En partant de ceci, il n'est pas possible des morts ressuscitent. Au fond, c'est de l'incrédulité. D'autres, c'est ce que nous avons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, disaient, oh, la résurrection, elle a déjà eu lieu. Vraisemblablement, ils en faisaient quelque chose de tout spirituel, comme si les âmes avaient à ressusciter. Pas du tout, c'est le corps qui ressuscite. Mais dans tous ces cas, dans ces deux cas, aussi bien Hyménée et Philète que ces sages de Corinthe, étaient aussi étrangers et aussi ennemis de la résurrection de Christ que les pharisiens et surtout les sadducéens des premiers chapitres des Actes, qui refusaient reconnaître et d'accepter le témoignage des apôtres qui disaient qu'il était vivant, parce que ils sentaient leur conscience atteinte et ils se refusaient à cette atteinte-là.
Nous pouvons rappeler un verset dans l'Épître aux Romains. Il a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Donc la résurrection de Christ a une part essentielle dans notre salut.
Mort avec Christ, Jésus, mort pour nos fautes. Il y en a comme le côté préalable, négatif. Un homme meurt. Il disparaît. Nos fautes disparaissent avec lui. Christ est ressuscité. Il surgit dans la puissance de la résurrection et nous recevons par cette résurrection quelque chose de positif. Ce ne sont plus seulement nos péchés ôtés par sa mort, mais la justice de Dieu qui nous est conférée.
Bon, c'est précisément l'assurance du salut. L'assurance que Dieu a été pleinement satisfait par l'œuvre accomplie et qu'il justifie, tout en demeurant juste, celui qui est de la foi de Jésus. Et cela est évidemment de toute importance. Il a été dit tout à l'heure que la résurrection met le sceau. C'est Christ lui-même mettant le sceau à toute sa vie et à toute son œuvre. Et alors, c'est aussi le sceau que Dieu lui-même met sur cette œuvre et sur ses conséquences. C'est lui qui déclare, voilà, il est ressuscité, maintenant je puis justifier. Et si Christ était mort, et même mort pour nos péchés, même pour nous sauver, allons jusque-là, et que nous n'ayons rien d'autre, nous ne saurions jamais si nous avons été sauvés. Même en supposant que Dieu nous sauva sans que nous le sachions. Mais Dieu veut que nous le sachions. Et la résurrection est là. Mais elle va plus loin, je n'ai pas besoin de le dire. Dieu met son sceau sur l'œuvre rédemptrice, sur la rédemption accomplie, la valeur, par conséquent, du sacrifice offert, du sang versé et du corps dont l'offrande a été faite une fois pour toutes. Dieu met son sceau sur la victoire remportée. La mort, comme cela a été évoqué tout à l'heure, a déployé, Satan a déployé par la mort, tout l'effort possible contre Christ. Quelqu'un avait pu mourir sous les coups, sous les efforts de la mort et de Satan, qui en avait la puissance, c'était Christ. Eh bien, il est mort en vainqueur. Il est mort avec le cri de victoire, il est mort en baissant lui-même la tête, et il est mort pour être enseveli sans que son corps connaisse la corruption. La mort était vaincue avant que le corps fût séparé de l'âme, de l'esprit. Mais nous touchons là aux choses insondables. Et la résurrection a été le sceau mis sur la puissance de Christ, qui, vainqueur de la mort, pourra, et ce sera sa gloire, donner désormais la vie, dès le soir de sa résurrection, souffler l'esprit de vie dans ses disciples, et puis, plus tard, ressusciter les corps. Et la résurrection met par là, Dieu met le sceau à toutes les promesses qu'il avait faites et qui trouvent leur accomplissement parce que Christ est ressuscité, parce que il est déterminé Fils de Dieu en puissance par la résurrection d'entre les morts. Comme il a été dit, la sienne est celle de tous ceux qui sont délivrés de la mort par lui. Quelle glorieuse chose que la résurrection.
Et cela contribue aussi, et ce n'est pas, c'est loin d'être négligeable, à nous rappeler que le Seigneur nous a tirés vers un autre monde que celui-ci. Nous sommes tellement cramponnés à celui-ci que il est bon que nous recevions la puissance de la vérité concernant tout le conseil de Dieu et toute l'œuvre de Christ. Nous devrions vivre en ressuscité parfaitement avant de l'être, avant d'être transmué ou ressuscité. C'est présentement que nous avons à manifester des effets de cette résurrection de Christ et de son ascension dans la gloire à la droite de Dieu. Voilà celui auquel nous avons affaire. Jeunes, croyants ou croyants âgés, voilà celui à qui nous appartenons et auquel, encore une fois, avec lequel nous devons entretenir les rapports qui seuls peuvent nous permettre de lui donner quelque satisfaction. Il en est digne.
Dans les versets que nous avons sous les yeux, il y a bien des choses que nous faisons qu'effleurer, mais il y a un verset sur lequel on peut attirer l'attention. Après avoir bien insisté sur le fait que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'a pas été ressuscité, et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Cela est redit au verset 16. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Ah, voilà que l'apôtre touche ici à ce côté particulier de la mort du corps, disons la mort physique, la mort. Car il ne faut pas craindre de parler de la mort, même pour le croyant. Et ce sujet, qui peut être troublant, qu'il est encore pour bien des âmes, qu'en est-il de ceux qui quittent cette terre? Sous-entendu des croyants. Pas l'apôtre parle ici de chrétiens, de quelque manière que ce soit, qu'ils se soient endormis, que ce soit l'effet même d'un jugement de Dieu, d'un châtiment. Il est parlé dans le chapitre 11 de ceux qui dorment, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs parmi vous qui dorment à cause de vos inconséquences. Mais d'une manière générale, n'est-ce pas, il y en a qui dorment. Pour les Thessaloniciens, c'était un sujet troublant, parce qu'ils attendaient le Seigneur en gloire, ils l'attendaient d'un moment à l'autre, et ils étaient affligés en pensant que ceux qui étaient morts ne seraient pas là pour être glorifié lorsque le Seigneur viendrait pour partager sa victoire. Il ne semble pas qu'ils eussent des doutes quant à leur salut éternel, mais ils seraient privés de quelque chose. Ici, l'apôtre dit, mais si il n'y a pas de résurrection des morts, vous condamnez ceux qui ont péri, ceux qui sont endormis, comme il est dit, endormis en Christ, par conséquent, encore une fois, des croyants, vous les condamnez à ne jamais vivre. Ils ont péri, car l'être est incomplet s'il n'y a pas le corps, et le corps ressuscité, il peut y avoir une période d'attente. Alors, cela nous est présenté ailleurs, n'est-ce pas, pour le croyant qui s'est endormi en Jésus, son âme, son esprit, se trouve avec Christ, et ils sont absents du corps, mais présents avec le Seigneur, dans une condition bien heureuse, délogés être avec Christ, cela est beaucoup meilleur, et ils attendent ainsi dans le repos, mais il ne nous en est pas dit davantage. Et quant au degré de conscience qu'ils ont des choses, des conditions, des temps, des lieux, il ne nous en est rien dit. Mais ici, l'apôtre dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, qu'en est-il de cela? Il n'y a pas d'espérance pour eux d'une vie véritable, de la vie totale, telle l'auront ceux qui partageront la gloire avec Christ. Peut-être parlaient-ils, ces faux docteurs, ou ces rêveurs, de la transmutation. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. En tout cas, ils pouvaient bien ne pas nier la venue du Seigneur, mais en tout cas, tout restait tellement vague pour eux, que l'apôtre peut dire, vous ne pouvez pas parler de vie pour ceux qui sont endormis en Christ. S'il n'y a pas de résurrection des morts, moi je considère, et je vous dis par l'Esprit Saint, qu'il faudrait dire qu'ils sont péris. Or, nous ne pouvons pas le dire, et nous ne voulons pas le dire, n'est-ce pas? Actuellement, où à bien y regarder, c'est la vérité de la résurrection qui constitue le critère, n'est-ce pas, le test, on peut dire, de la véritable foi chrétienne. Combien qui se disent chrétiens, ou qui même prétendent annoncer l'Évangile, laissent soigneusement de côté cette question de la résurrection comme quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'inadmissible par l'esprit humain, en fait ce sont des rationalistes, n'est-ce pas, et qui laissent alors les âmes dans l'incertitude et le trouble le plus grand, et auquel on pourrait dire, mais présenter un pareil christianisme, c'est condamner les âmes auxquelles vous parlez à une destruction, à ce qu'on puisse dire de ceux qui meurent, ils ont péri. tout ce qui se dit à propos de mort, tout ce qui se dit dans des services dits religieux, tout ce qui se dit sur des cimetières. Est-ce que la réalité de la résurrection est bien placée toujours devant croyants et incrédules, car il y a résurrection des justes et résurrection des injustes.
Les gens n'ont pas beaucoup parlé de ces sujets-là, parce que cela touche à la mort, et que la mort, on la regarde toujours d'aussi loin que possible. Et si l'on parle de résurrection, les hommes sentent quand même qu'aucune puissance humaine ne peut produire un tel fait. Donc, c'est Dieu. Et les hommes ne veulent pas toujours accepter même l'idée de Dieu. C'est pourquoi ils ne savent pas où ils en sont. Et ils ne peuvent pas savoir. La mort est là. La résurrection est annoncée. Mais personne ne peut en parler. Que ceux qui ont la foi. Et ne peut avoir une notion, une idée juste de cela que ceux qui ont la foi. Et il y a un autre point que l'apôtre touche. Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, comment fait-il? Comment les chrétiens que le Seigneur appelle à souffrir, à servir, à affronter la misère et la mort, comment pourront-ils tenir dans ce chemin auquel il les appelle? L'apôtre en parle ici un peu plus loin. Comment y en a-t-il qui seront baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent pas? Tout cela vient confirmer l'importance de la vérité de la résurrection qui fait qu'un Paul et tant d'autres ont pu regarder la mort en face parce qu'ils avaient une foi vivante dans la résurrection. Et ce n'était pas seulement une doctrine qu'ils avaient dans l'esprit, c'était une vérité que le Saint-Esprit rendait vivante dans leur cœur et leur conscience. Ils savaient qu'ils avaient part, quoi qu'il arrive, à une autre vie, dans d'autres conditions, et que la mort pour eux, en somme, n'était qu'un incident dans leur travail, dans leur service, dans leur épreuve. Il ne serait pas mauvais que nous méditions aussi cela nous-mêmes un peu.
On peut le voir. Le verset 19 qui résume ce que notre frère vient de présenter. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes, se relie directement au verset 29. La suite de l'exposé de l'apôtre, du raisonnement de l'apôtre, se continue ainsi du verset 19 au verset 29 et suivant, 29 et 34, qui parle de ceux qui sont baptisés pour les morts, qui parle des combats et des souffrances de l'apôtre, et qui enfin appelle les croyants à se réveiller et à vivre comme ceux qui connaissent la vérité de la résurrection, tout cela forme un tout. Et alors, dans l'intervalle, il y a du verset 20 au verset 28, cela est bien souligné dans notre version, notre Bible, par les signes même d'imprimerie. C'est une parenthèse, une magnifique parenthèse, dont nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui nous présente alors les vérités de la résurrection dans qu'on peut appeler leur ordre historique, et alors mettant en valeur à la fois la liaison étroite entre la résurrection de Christ, les prémices, et la résurrection de ceux qui sont de lui, et la valeur, le prix de l'espérance chrétienne. Mais ce verset 19, continué donc par les versets 30 à 32, est bien remarquable. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, et nous sommes plus misérables que tous les hommes. Tous les hommes que Satan berce sans doute de plaisirs factices, d'espérances trompeuses, d'illusions, mais qui croient tout de même trouver des plaisirs dans la vie d'ici-bas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Au lieu de cela, et d'autres, on cherche des plaisirs plus élevés. Mais au lieu de cela, voici des chrétiens qui acceptent, c'était le cas pour Paul, de consacrer leur vie à un maître rejeté, à souffrir avec lui et pour lui, plus encore, de porter dans le corps, ici-bas, la mort de Jésus, mourir chaque jour. Mourir chaque jour. Pourquoi? Dans quelle puissance? Qu'est-ce qui lui a donné cette puissance à Paul? Et qu'est-ce qui peut nous donner dans notre mesure, chacun, là où le Seigneur nous place, quelque force pour cela? C'est ce que Paul lui-même appelle, dans le passage bien connu du chapitre 3 des Philippiens, la puissance, la résurrection. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Il avait devant lui cette certitude absolue de la résurrection d'entre les morts, c'était là son espérance, mais il avait comme possession présente, comme force et arme, ressource continuelle dans tout ce qu'il avait à rencontrer ici-bas, la puissance de la résurrection. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous sommes encore dans ces corps mortels. Ils ne sont pas affranchis de la mort. Ils le seront bientôt. Nous attendons l'adoption, la délivrance du corps. C'est là le salut complet. Mais en attendant, dans ces corps, la puissance de la résurrection est appelée à se manifester et à se développer. Et pour nous, c'est une question de foi, et de foi attachée à son objet, c'est-à-dire la personne bénie et glorieuse de notre précieux Sauveur et Seigneur.
Sublime charité, ô profonde humilité, le Fils prend notre nature. Il vient, porte l'interdit, et meurt sur le bois maudit pour sauver sa créature. Mais le Christ, 38e.